France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Donald Trump va vite. Très vite, il a déjà un effet repoussoir, mais aussi un effet attraction. On ne parle pas seulement de l'extrême droite qui s'est empressée de demander la fin du Green Deal, c'était cet après-midi. La question qu'on va poser ensemble ce soir, c'est jusqu'à quel point il nous impose son rythme, son agenda, à quel point c'est lui désormais le tempo mondial. La question est de savoir si son style et même la révolution autoritaire qu'il incarne exerce sur nous une pression constante qui nous oblige à faire des virages, si ce style a donné des ailes à certains de nos secteurs qui en profitent pour s'aligner loin de nos modèles et de nos ambitions, si le changement d'air, au contraire, renforce notre modèle et notre volonté de le défendre. Quelques exemples, c'est dans la presse de ce matin. Stellantis a changé de cap, sa nouvelle citadine ne sera plus que électrique. Aujourd'hui, le Sénat a un texte débattu et demain d'ailleurs pour alléger certaines normes environnementales, notamment sur les pesticides. On parle de réduire ou de supprimer certaines agences, ça ne vous a pas échappé non plus. Alors bien sûr, on n'a pas attendu Trump pour avoir une crise agricole, ni des chiffres de vente de voitures électriques en berne. Mais est-il l'accélérateur d'un retour en arrière assumé ? Est-ce que ça n'est pas le thème de la dérégulation, au fond, qu'on a tant débattu après son intervention à Davos ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de devenir aussi des fans de crypto-monnaie ? Regardez l'immigration. Là non plus, on n'a pas attendu Trump, évidemment, pour en faire un sujet de friction et même une grande crispation mondiale. Mais les prochains à voter, ce sont les Allemands. Et leur droite traditionnelle se radicalise face à la surenchère de l'AFD, elle-même soutenue par Elon Musk. Trump est en train de changer la conversation, de gré ou de force. Allons-nous participer au monde selon Trump ? Y sommes-nous invités ou contraints ? Sommes-nous capables de tenir bon sur notre modèle à nous ? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Vincent, c'est vous le premier. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Vincent.
Merci beaucoup de m'écouter. Eh ben, en fait, moi, ma première question, c'est simple, c'est comment pouvez-vous poser la question ? Parce qu'elle me semble tellement évidente. Donc il y a huit ans, c'était soi-disant un clown, il pouvait pas gagner. Enfin, et personne n'y pensait, ça semblait complètement surréaliste. Depuis, tout ce qu'il a fait, et avec lui à côté, un Elon Musk qui, à l'époque, presque était en train de couler... en train de couler Tesla, qui maintenant a 7000 satellites en l'air. Et aujourd'hui, il joue comme avec des humains, comme des Playmobil. Il parle de Gaza en disant, tiens, on va en envoyer par là. On va en envoyer un petit peu en Égypte. Comment ça paraît tellement surréaliste.
Mais alors du coup, nous, Vincent, est-ce qu'on est capable de... est-ce qu'on est contraint, en fait, par l'agenda de Donald Trump, à votre avis, désormais, nous aussi, ou pas ?
Mais j'en suis... Malheureusement, j'ai l'impression. Mm-hmm. Mais j'en suis le plus attristé du monde. Parce que cet homme est en train de dicter des règles qui sont... qui dépassent l'entendement. Mm-hmm. Je pense que dans l'histoire, on a rarement connu quelqu'un qui prennent une ascension aussi forte, avec des décisions aussi drastiques et sans aucune prise de conscience de l'humain.
Merci beaucoup, Vincent. Je retiens cette phrase, dicter les règles. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Pour discuter ensemble autour de ce thème jusqu'à 20h, il y a Anne Rosenchère qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Dominique Régnier est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes directeur général de la Fondapol. Il y a François Gémen également. Bonsoir, monsieur Gémen.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à HEC, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et vous êtes aussi membre du GIEC. J'aimerais qu'on s'arrête tous sur cette phrase, en fait. Je disais, moi, en introduction, est-ce qu'il impose son rythme ? Est-ce qu'il impose son agenda ? Notre auditeur dit qu'il nous dicte même les règles. Qu'est-ce que vous en dites, Anne Rosenchère ? Est-ce que le tempo, c'est lui qui l'a donné ? Nous sommes contraints de le suivre désormais ?
Il est le président d'une des plus grandes puissances mondiales. Donc forcément, la question qu'il pose de son agenda, de sa façon de voir le monde, nous oblige à réfléchir. Pour reprendre une des autres, c'est quand même comme ça que Vincent a débuté. Mmh. Il dit, comment pouvez-vous poser la question ? Je crois qu'il faut se poser les questions. Il me semble que les démocraties occidentales se sont installées depuis 40 ans dans une crise de la démocratie, dont dont on voit vraiment les symptômes depuis 10 ou 15 ans, et dont ces symptômes prioritaires, je dirais, sont le succès de ces entrepreneurs politiques, comme Donald Trump, comme avant Beppe Grillo en Italie, comme Boris Johnson, même s'il est un petit peu différent, etc. Et qui, en fait, je pense, nous oblige à réfléchir en essayant de mettre un peu de côté nos propres réactions émotionnelles, et on peut les comprendre, d'effroi, d'inquiétude, extrême parfois face à certaines déclarations qui semblent pas de bon sens, enfin sans décence, etc. Mais je crois que ça nous emmène à réfléchir à de quoi ce succès est-il le symptôme et la réaction. Et on va y revenir probablement, c'est un doigt d'honneur fait aux élites, à la conversation publique, etc. Mais aussi, je pense, que c'est qu'on s'était installé dans nos démocraties occidentales, dans cette idée que justement des règles nous étaient imposées. La mondialisation, la construction européenne, les traités, machin, etc. Et que, en fait, finalement, les gouvernements, le cercle de la raison, pour le redire avec les guillemets qui conviennent, n'étaient plus là que pour gérer les affaires courantes selon des règles qui nous étaient imposées. Et quelque part, ces clowns effrayants refondent la politique, c'est-à-dire disent « Ah non, non, nous, on va changer les choses et on va le faire et on va dire ce qu'on et on va faire ce qu'on a dit. » Et ça, cette espèce de pulsion presque démocratique, par embardée autoritaire, doit nous faire réfléchir.
Dominique Régnier, est-ce que l'embardé autoritaire, comme dit Anne Rosenchère, ça nous fait lever un sourcil en disant « Ah, mais nous aussi, on pourrait faire la même chose, alors donc nous aussi, on peut aller plus fort ?» Ou est-ce que, selon vous, ça nous donne un mouvement de recul ?
En tout cas, c'est une forme d'étonnement qui peut, malgré tout, nous surprendre, si je puis dire, parce que c'est le cœur de la politique. Nous, les Européens, attachés que nous sommes, avec beaucoup de force, à la pacification, à l'ordre, à la régulation, à la coopération, etc. Depuis 80 ans, on fait ça, et c'est très bien, mais ça n'est pas comme ça que la politique, ultimement, se règle. Il y a une espèce de loi fondamentale, et tout à l'heure, on passait de la déréglementation supposée à ce que disait Vincent, il nous impose...
Il nous dicte nos règles.
Ses règles, voilà, c'est ça. Et au fait que les États-Unis se sont... c'est pas la première fois, mais là, c'est avec beaucoup de force. Et ils proclament, à leur tour, la politique de puissance. Et ce qui me frappe, et qui m'inquiète, bien sûr, c'est que désormais, après la Russie et la Chine, les États-Unis s'adonnent à la politique de puissance de façon complètement assumée, et ce sont les trois... ce sont trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont donc, si je puis dire, majoritaires, qui maintenant libèrent la politique de puissance, parlent de conquérir, d'annexer ou de contrôler des territoires qui ne leur appartiennent pas ou de les renommer. Donc, c'est un changement d'époque. C'est une formule qu'on a souvent employée. Là, c'est très sérieux. Il faut envisager quand même les situations les plus graves, nécessairement.
Est-ce que, je finis le tour de table, François Gémen, est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous craignez qu'il y ait une forme de contagion ? J'ai cité des exemples tout à l'heure qui ne sont évidemment pas immédiatement corollaires de l'arrivée de Trump il y a 10 jours, mais dans l'idée, la contagion voudrait dire, par exemple en termes d'environnement, puisque c'est votre domaine, bah attendez, si les Américains sortent, nous aussi, sinon on sera comme des imbéciles. C'est pareil sur la voiture électrique, bah, si on ne se fixe pas des échéances aux États-Unis, il faut qu'on arrête de s'en fixer nous aussi. Est-ce que le risque, c'est pas celui-là ? Est-ce qu'on y va tout droit, au fond ? Parce que les problématiques, quand même, c'est aussi les nôtres, ces problématiques-là.
Bien sûr, et je dois dire que je suis autant inquiet qu'atterré. Et que, véritablement, cette tentation de suivisme qu'on voit un peu partout dans tous les pays européens et sur quasiment tous les sujets, sur l'environnement, sur l'asile et l'immigration, sur la politique monétaire... et également, j'irai sur le style et les questions des régulations, je suis atterré par ces tentations de suivisme que je vois vraiment comme un terrible aveu de faiblesse. À la fois de faiblesse de nos démocraties, et je ne vais pas surenchérir sur ce qu'a déjà dit Anne Rosenchère et auquel je souscris complètement, mais effectivement, les symptômes de la faiblesse de nos démocraties, c'est effectivement l'apparition de ces entrepreneurs politiques populistes. C'est aussi, il faut le dire, la grande brutalisation du débat public. Et puis, c'est aussi révélateur de notre faiblesse géopolitique en tant qu'Européens. Il y a quelques jours, le président Trump a eu une conversation téléphonique menaçante et comminatoire avec la première ministre danoise, Madame Frederiksen, au sujet du Groenland, qui a assuré le Danemark de sa protection et de son soutien. Pas du tout l'Union européenne, mais la Chine. Quelle humiliation c'était pour l'Union européenne que de voir la Chine devoir voler au secours du Danemark, alors qu'à l'évidence, nous sommes apeurés, tétanisés, comme des lapins au milieu d'une route qui voient les phares d'une voiture arriver à grande vitesse et qui ne savent pas dans quel sens partir.
Tétanisé, est-ce que c'est un mot que vous reprendriez, Anne Rosenchère, ou pas? Et surtout, enfin, pardon, mais combien de temps ça dure d'être tétanisé avant de reprendre le dessus, en quelque sorte, hein?
La tétanie, pour moi, elle vient bon, d'abord de la stupeur, alors qu'on aurait dû peut-être le voir encore à nouveau arriver, et elle vient du fait de ne plus savoir où on habite, parce qu'on voit bien que malgré tout, ce qui se passe de l'autre côté de l'océan est en train aussi, comment dire, de fermenter par chez nous.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a urgence de sortir de la tétanie et de sortir même de cette espèce d'interrogation qu'on peut un peu trop souvent entendre de, en gros, comment peut-on être trumpiste, comme on dit, comme Montesquieu se moquait de ceux qui disaient comment peut-on être persan. Je pense qu'il faut essayer, non pas forcément de justifier tous les comportements électoraux.
Mais si ça fermente chez nous, Anne Rosenchère, est-ce qu'il nous l'accélère, là, Donald Trump? Est-ce qu'il permet d'aller plus vite, en fait, ceux qui. En matière d'immigration, en matière d'environnement, de tous ces énormes sujets qui sont le sel de toutes nos campagnes électorales désormais.
Et ben ça va un petit peu dépendre aussi de son bilan. C'est-à-dire que la première fois, il n'a quand même pas été réélu. Donc même si sur d'un point de vue purement, par exemple, économique, ça a été un aiguillon. C'est-à-dire que, par exemple, le protectionnisme, qui avant Trump, était complètement tabou. Mmh. Trump arrive la première fois, il fait du protectionnisme en disant sinon les usines vont trop fermer aux États-Unis. Derrière, Joe Biden fait encore
exactement
plus.
La même chose. Donc, et c'est là que nous on se met à parler de souveraineté économique, etc. Exactement. Des mots qu'on ne prononçait pas avant.
Donc la question en fait, c'est de savoir dans quoi on est. Est-ce qu'on est dans un moment d'aiguillonnage effrayant de la démocratie, c'est-à-dire que quelque part les partis au pouvoir vont quand même prendre une part du diagnostic pour voir comment répondre à la colère tout en continuant de mener des politiques humanistes et décentes, ou est-ce qu'on est dans un virage et que vraiment les États-Unis ont pris une route différente? Ça, c'est très compliqué de dire en amont.
Vous parlez de protectionnisme, on va sauter sur l'occasion, si je puis dire, et sur vous aussi, Francis, qui est à Nancy, bonsoir.
Bonsoir,
on vous écoute.
Ne sautez pas trop fort.
Allez-y.
Je comprends l'émoi de vos invités, les méthodes trumpistes sont des méthodes qui secouent le monde. Est-ce qu'on préfère Bayrou qui parle pendant une heure et demie pour ne rien dire? Ou est-ce qu'on préfère un type qui rentre dedans toutes les cinq minutes? Ça, c'est un choix qui a été fait par les Américains et qui est en train d'envahir un peu le monde. Alors, ma remarque à moi, elle va pas faire plaisir à votre invité écologiste. Ma question, c'est, ne devrait-on pas, si l'on est écolo, se réjouir de l'arrivée de Trump? En effet, contrairement à tout ce qu'on raconte, le fait de prôner un souverainisme de production, c'est-à-dire de ramener sur les lieux de consommation américains les usines, ça va vider les mers d'un certain nombre de porte-conteneurs et ça va vider les airs d'un certain nombre d'avions cargo. Donc je pense qu'il faudra un jour faire un bilan entre ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu d'un point de vue écologique. Vous avez bon nombre, j'ai de la famille en Allemagne, vous avez bon nombre aujourd'hui d'usines allemandes, alors ça va créer des problèmes en Allemagne, d'usines allemandes qui ferment, licencient pour partir s'installer, produire aux États-Unis. Donc ce souverainisme de production va dans le sens de ce que souhaitent les écolos. Alors, je connais la réponse, hein, oui, mais vous avez vu sur le thermique, l'électrique, etc.
On va lui poser la question tout de suite à François Gémen et aussi d'ailleurs à Dominique Régnier. Et ce qu'il faut rappeler d'ailleurs, et ce qui est quand même intéressant, c'est que le Trump 1, c'était rapatrier les usines, produire aux États-Unis, et désormais c'est venez produire chez nous. Votre réponse à notre ami Francis, François Gémen?
Oui, alors d'abord rappeler à Francis que c'est pas parce qu'on est chercheur et qu'on travaille sur le climat et l'environnement qu'on est forcément écologiste. Donc ne confondons pas non plus je dirais, la position idéologique qu'on peut avoir avec l'objet de ces recherches. Pourquoi est-ce que les entreprises allemandes vont déménager aux États-Unis ? Parce que le coût de l'énergie y est beaucoup moins cher et parce que l'énergie y est abondante. Pourquoi est-ce que le gouvernement chinois a
mais
investi
propre,
en 2024
François Gemmel, mais pas forcément propre. Oui.
Ah non, pas propre.
Ah,
du tout.
D'accord.
Pourquoi est-ce que le gouvernement chinois a investi en 2024 1300 milliards de dollars dans les énergies décarbonées ? Pas parce que le gouvernement chinois est un gouvernement écolo, pas parce que les cadres du Parti communiste chinois seraient d'un coup tentés par le wokisme, mais parce que la Chine a évidemment bien compris que pour garantir la compétitivité de leurs industries, il fallait qu'elles aient accès à une énergie la moins chère possible et donc aussi la plus décarbonée possible. Et ça, c'est un pari sur l'avenir et sur l'économie de demain. Et c'est là où moi, je suis effectivement très inquiet de la tentation européenne de revenir sur le Green Deal et d'emboîter le pas à Donald Trump, pas par écologisme, et ça c'est très très important, mais par souci de la compétitivité des entreprises et des industries européennes. Il faut relire le rapport de Mario Draghi, qui montre bien que la clé de la compétitivité de notre économie, c'est l'accès à une énergie abondante et bon marché. Et donc c'est pour ça que l'Europe doit évidemment d'urgence investir davantage dans les renouvelables et dans le nucléaire, simplement parce que l'Europe n'a pas de charbon, n'a quasiment pas de gaz et n'a pas de pétrole, et que donc si l'Europe ne met pas le turbo sur les investissements dans les énergies décarbonées, elle va se retrouver à la remorque de l'économie mondiale. Et c'est ça qu'il est fondamental de comprendre. Si on revient sur le Green Deal, on se tire une balle dans le pied. C'est comme si au début des années 90, on investissait dans le Minitel alors qu'Internet arrivait.
Merci beaucoup François Gemmell. Dominique Régnier, deux choses. D'abord, effectivement, le rapport Draghi désormais est redevenu à nouveau une espèce d'alpha et d'oméga que l'Europe aimerait suivre ou pas. Moi, je me demandais si en termes de méthode, on devrait aussi employer après tout, puisque c'est la loi du plus fort qui joue, puisque c'est comme ça qu'il va nous parler. Est-ce qu'on a les moyens de lui parler de la même, sur le même ton ? Est-ce qu'on a les moyens économiques de lui parler sur le même ton ?
Aujourd'hui, certainement pas. C'est une faute que nous avons commise, c'est une faute collective des Européens. C'est une faute qu'on va payer peut-être très cher. Hein. Et d'ailleurs, alors c'est toujours compliqué dans ces discussions sur des sujets aussi importants qui s'entremêlent. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le Green Deal a été mal pensé, mal négocié, que c'est une erreur très importante dans sa conception et qu'il est à l'origine de la poussée, d'ailleurs c'était prévisible, ça s'est passé, des extrêmes droites en Europe. Et ça me permet d'ailleurs de dire que ces entrepreneurs en populisme, ce ne sont pas des apparitions, ce sont des conséquences de mauvaise gestion d'un côté ou de problèmes non réglés de l'autre. Car l'immigration sans intégration, sans régulation, est un problème mal réglé qui fabrique des populistes. C'est ainsi, et on ne peut pas ne pas répondre à ces problèmes ou ne pas les prendre en charge. Donc il faut à la fois, il faut tout mettre sur la table et pas simplement imaginer que la réaffirmation comme une espèce de doctrine dogmatique de la nécessité de faire des politiques écologistes d'un côté et de ne pas considérer l'immigration comme un problème réglerait nos différends avec les États-Unis. Non, c'est un problème de puissance. Nous n'avons pas de puissance aujourd'hui. On ne peut rien opposer à Trump. Même nos armées, on les lui achète ou on loue, je dirais collectivement. Nous avons délaissé tout cela. Ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est transférer une partie des sommes considérables qui sont mal utilisées, y compris dans de mauvaises idées, je dirais, en matière d'écologie, vers une puissance militaire, une puissance économique qui n'adviendra, si elle n'advient pas, nous placera dans une situation d'assujettissement aux États-Unis.
On a cette phrase de Claude, cette remarque de Claude sur franceinter.fr qui dit « Trump représente un retour de vague consécutif aux excès qui ont été faits dans l'autre sens avec des mesures voulant nous faire penser dans une seule direction ». C'est un discours qu'on commence à entendre beaucoup, ça, à nos enchères. Trop fort dans un sens, donc ça revient de l'autre. Et ça marche pour la liberté d'expression, beaucoup. Ça marche pour les politiques écologiques, ça marche pour l'immigration. C'est un peu devenu l'argument passe-partout.
Oui, mais parce que je pense qu'il y a du vrai. Voilà. Il y a un retour du refoulé politique. Aujourd'hui, un diagnostic qui n'a pas réussi à émerger et qui a fini par se dissoudre dans une impression de déni démocratique. Rappelons-nous le référendum de 2005 qui n'a pas été appliqué. Ce sont des choses comme ça, si vous voulez, où à un moment on donne la parole au peuple et où, derrière, on a le sentiment qu'il y a une volonté presque de suffrage censitaire, de démocratie censitaire. Attention, dans ces choses-là, on les règle entre les gens qui savent parce qu'ils ont fait les meilleures études ou alors qu'ils ont un supplément d'âme par rapport au reste du peuple. Et ça, sur certaines questions, ça a joué extrêmement fort. Et bien entendu, on sait très bien, par exemple en France, que le Rassemblement national laboure sur ces terres-là depuis longtemps. Donc, en effet, je crois que si on ne veut pas voir qu'il y a dans l'élection de Trump, mais il y avait aussi dans le Brexit avant et dans l'accession aussi de Giorgia Meloni, etc., même si toutes ces choses-là sont pas exactement de la même nature, mais pour moi, elles sont le symptôme de la crise occidentale sur ces questions-là, eh bien, on va continuer, si vous voulez, de s'émouvoir dans le vide. Voilà. Donc, soit on accepte de regarder comment les politiques peuvent intégrer, prendre en charge une partie du diagnostic, pas tout le diagnostic. L'idée n'est pas de dire, il faut dire exactement comme Trump, et comme ça évitera qu'un Trump naisse en Europe. Il ne faut pas du tout tout faire. Mais je pense qu'encore une fois, l'attitude de se radicaliser dans des camps ne mènera à rien.
Alors, peut-être, en effet, mais Dominique Ranier, je repense à notre auditeur précédent qui parlait de la longueur des discours de François Bayrou. C'est pas lui qui est en cause, peu importe, l'idée c'est vraiment, en voilà un au moins qui prend des décisions qui sont nettes et qui sont précises. C'est peut-être pas les bonnes, mais au moins les décisions sont prises. Et au moins on entend du changement. Est-ce que, encore une fois, ça veut dire qu'il faut y compris changer la méthode, changer le style, changer la manière?
Il y a quelque chose en tout cas. Alors moi je trouve que Trump, pour le moment, il a une dimension qui peut épouvanter. Hein. Parce que c'est quand même, on n'aura pas le temps de tout dire, mais il y a quelque chose de tout à fait effrayant dans ce qui se passe. Mais je me suis mis à l'exercice de me dire, au fond, qu'est-ce qu'il représente de positif? Et ce que j'ai trouvé...
Il y a quelque chose, est-ce qu'on jette tout ou est-ce qu'on en tire
le
meilleur?
Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas... Ça projette, alors sans autre considération que ce que je vais dire là, ça projette une image d'énergie, de force, de volonté, de projet, de futur, jusque Mars avec son allié Elon Musk, etc. Ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la légère, c'est aussi le reflet d'une Europe qui est en panne complète de grandes idées, de grands... Et d'ailleurs, moi, j'ai dans une enquête qui a été faite sur la popularité, la perception d'Elon Musk en Europe, je voyais qu'en France, ceux qui étaient les plus favorables à Elon Musk, ce sont les 18-24 ans et les 25-34 ans. Ça m'embête, ça. Il y a dans toutes les jeunesses un désir de révolution, au sens neutre, je dirais, un désir de grandeur, de bouleversement et de fondation, de refondation. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça? On ne le trouve pas. Et cette énergie-là, cette promesse qui donnera ce qu'elle donnera, on le verra, il y a bien des raisons pour lesquelles il faut qu'on soit très préoccupé, nous ne l'avons pas considérée. On était comme sur une espèce de plat, les choses allaient se dérouler comme elles se déroulaient depuis quelques années. Et ça, c'est une incompréhension totale de ce qu'est l'histoire universelle. Il ne peut qu'y avoir ce type de tension et de conflit.
Avant de retourner au standard, François Gémen, là-dessus, moi j'aimerais bien vous entendre sur comment se fait-il que cette allance, cette idée nouvelle, cette envie d'agir et de faire autre chose, il n'aille pas directement, ou il ne va plus, on va dire, électoralement, directement vers les idées, vers les idées autour du réchauffement climatique, sans parler même d'écologie, qu'elle soit politique ou pas, avec une jeunesse qui suivrait ça. On a l'impression que même ça, on l'a perdu, en fait.
C'était le pari de la Commission européenne quand elle présente le Green Deal en 2019, d'en faire un nouveau projet, non seulement de projet de développement économique, mais d'en faire aussi un nouveau modèle social et une forme de renouveau démocratique dans l'Union européenne. Et il y a 5 ans, le Green Deal est effectivement perçu comme le nouveau projet, peut-être la grande idée de l'Union européenne. Et je serais d'accord avec Dominique Ranier pour dire qu'effectivement, dans la manière dont il était en tout cas vendu et communiqué dans l'opinion, il est apparu de plus en plus comme un fardeau, comme une sorte de contrainte. Et donc, d'une certaine manière, ce qui fait, je crois, le succès de Trump et des autres entrepreneurs populistes, c'est d'une part une sorte de ligne directrice assez claire par rapport à une Europe qui est aujourd'hui en manque de projets, en manque de grandes idées, et aussi, il faut le dire, un peu en manque de rêves, et ça me paraît très important, qui est une sorte de refus de la nuance, et ça, ça me paraît très important, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus dans les débats publics. Et puis enfin, le dernier point qui me semble très important par rapport à la question du retour de boomerang dont on avait parlé sur des questions de MeToo, sur des questions de wokisme, d'environnement, c'est que Trump va en fait vendre des indulgences. En d'autres termes, il va dire, voilà, il y a le mouvement MeToo, on constate qu'il y a des violences sexistes et sexuelles dans la société, et donc vous vous sentez mal d'être un homme, votez pour moi et je vous absous. Mmh. Sur le wokisme, on reconnaît, et au départ tout le monde est d'accord pour dire ça, on reconnaît qu'il y a des injustices structurelles dans la société, mais votez pour moi et je vous absous de la culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à ces injustices. Mmh. Sur la question de l'environnement, pareil. Vous vous sentez un peu mal et angoissé par le changement climatique, votez pour moi et je vous dis que ça n'existe pas.
Le vote des indulgences, l'achat même des indulgences, ce degré ou de force, demain tous Trumpis, c'est le thème du téléphone sonne ce soir. On en parle avec François Gémen, avec Dominique Régnier, avec Anne-Rose Enchère et avec vous, Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Alain.
Eh bien écoutez, moi je dirais en quelques mots, je pense malheureusement que c'est un peu une fatalité au niveau de la démocratie parce que l'inflation, tout ce qui est inflation réglementaire, fait que bon, que les gens, à mon avis, ne s'y retrouvent plus, ne comprennent plus, nous, Français, l'inflation des règlements européens, de la réglementation, etc. Enfin, les dizaines d'années qu'on a passées en démocratie, là, depuis on va dire, 60 ans, 70 ans, on est arrivé à un point où la démocratie déborde de réglementation et les gens, à l'opposé, veulent de la simplification, veulent des choses simples. Et il y a de moins en moins de réflexions approfondies, ce qui fait que des populistes comme ça se régalent. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, oui, on vous a bien compris et bien entendu, Anne-Rose Enchère, fatalité, trop de réglementation, démocratie qui déborde, sont les mots de notre auditeur.
Je pense que c'est ce que démontre très très bien Marcel Gauchet, le philosophe, dans son dernier ouvrage, s'appelle Le Nœud démocratique. Il dit qu'en vérité, la démocratie a toujours fonctionné sur deux jambes qui doivent être vraiment intriquées entre elles. D'un côté, les droits individuels qui sont garantis par le droit, par l'état de droit, par les normes, par les règles, etc. Et de l'autre côté, la souveraineté populaire. Et il s'est passé quelque chose de terrible ces 40 dernières années, c'est qu'on a le sentiment que les deux choses se sont disloquées. Comme si on ne pouvait plus être souverain du destin des nations parce que des normes, des règles s'appliquaient à nous. Et donc forcément les gens qui arrivent en disant « take back control », c'était le slogan du Brexit, « on reprend le contrôle », quelque part, il surfe sur cette aspiration. Il faut la comprendre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut tout en épouser. Néanmoins, je dirais que c'est la définition même de la politique qui nous renvoie à la figure.
Ce qui nous amène à l'excès, Dominique Régnier, à cette phrase de Peter Thiel qui disait « Entre démocratie et liberté, les deux ne sont pas compatibles. Donc la liberté ne va pas avec la démocratie. Si on pousse le raisonnement tout au bout, c'est ça que ça veut dire, en fait. » Et effectivement, il y a de quoi avoir peur.
Oui, parce que enfin, là, c'est un énoncé qui ne me paraît pas recevable du tout. Il n'y a
On est d'accord.
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je rappelle qu'on utilise une formule que moi je récuse, qui est celle de démocratie libérale. Donc ça fait quand même un moment que l'on voit se déployer un projet, il y a des années, y compris en Europe, assumé de démocratie libérale, c'est-à-dire d'une démocratie qui ne reposerait pas sur l'état de droit et les libertés. Donc c'est une idée qui non seulement a fait son chemin, mais qui s'est installée et s'efforce de structurer. C'est un peu le projet de Trump aussi. Mm-hmm. Il est question maintenant de lui permettre de faire un troisième mandat, vous l'avez peut-être vu, en modifiant. Bon, on verra ça. Mais en fait, c'est quand même symptomatique. Et c'est une idée qui vient de loin, il l'avait déjà énoncé dans sa campagne antérieure, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout dû au hasard. Et donc, nous sommes à un moment où, ce serait mon hypothèse, sous la pression d'une véritable menace dans la maîtrise du leadership mondial, à savoir la Chine, bien sûr, les États-Unis sont saisis eux-mêmes d'une grande peur, sont tétanisés eux-mêmes. Ils l'ont été avant, ça fait 20 ans qu'ils le sont, de plus en plus, et ils commencent à se dire que, finalement, la démocratie, c'est quelque chose qui va les empêcher d'affirmer leur puissance supérieure à la Chine. Donc, moi, je dirais, du point de vue de la science politique, ils vont donc s'en émanciper parce qu'ils ne céderont pas sur la question de la puissance suprême face à la Chine. Et on va voir, assez bizarrement, on va voir converger dans leur système politique les deux qui étaient très opposés, le système pluraliste libéral américain et le système à parti unique et totalitaire chinois, qui d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'ils vont se ressembler à toute vitesse, mais enfin, sont en train de converger pour cette espèce de grande confrontation.
Anne-Rose Enchère, je voudrais revenir sur ce que disait François Gémen tout à l'heure, qui disait « Désormais, le projet européen manque de rêve, manque de grandes idées. » Et en effet, si on essaye de le définir, si on essaie de se dire « Non, nous, il nous reste ça », est-ce qu'on est capable de le dire, ça ? Est-ce qu'on est capable de le définir ? Honnêtement, moi, non, je vous vois réfléchir avant de parler, comprends. Enfin, je veux dire, mais...
C'est là aujourd'hui, c'est le grand problème de la construction européenne, c'est que c'est devenu avant tout un marché. C'était malheureusement, je pense, le pari qu'on fait. On serait bien dur de les juger a posteriori, mais les pères fondateurs de l'Europe, qui étaient de dire, on va commencer par le marché et le reste viendra. La vérité, c'est que le reste n'est pas venu. Après, il y a des fraternités, il y a des voisinages, on s'est quand même rapprochés. Aujourd'hui, on se sent probablement culturellement plus proche de nos voisins européens qu'on ne le sentait il y a quelques décennies. Mais en revanche, en termes de projet de puissance, de force de gouverner et de voix dans le monde, on s'aperçoit que, au contraire, puis cette règle de tout voter à l'unanimité, ça rend quand même les choses complètement immobiles. Donc, oui, l'Europe est en train de devenir. Alors, il faut faire attention avec le terme de repoussoir, parce que quand on interroge les peuples, ils sont encore, et notamment les Français, ils sont encore pour rester dans l'Europe. Mais dans son fonctionnement...
Mais y compris si on interroge les Hongrois, curieusement.
Oui, absolument.
Ouais, massivement.
Mais il y a quand même quelque chose de la déception et du désamour sur ce que ça nous empêche versus... Quel est le projet ?
La raison pour laquelle je vous pose la question, Dominique Reynier, c'est qu'au fond, Trump dit la même chose. Il dit « Le rêve américain est mort, je vais vous le rendre.
Oui, »
Et du coup, je cherche le rêve européen,
vrai,
en fait, d'une certaine façon.
Ce ne sont pas d'ailleurs, Anne-Rose Enchère le disait bien à cet esprit-là, et moi j'approuve complètement, ce ne sont pas les anciens qui ont démérité, ils ont fondé quelque chose qui était un point de départ. C'est plutôt nous qui n'avons pas prolongé la chose. Et moi, d'une certaine manière, pour répondre à votre question, et très modestement, moi je m'attendais, et je m'attends toujours, à ce que l'Europe... qui est une espèce d'esprit. C'est l'esprit, l'Europe, c'est ça. Je caractériserai l'Europe par la puissance de l'esprit. L'Europe s'empêche de faire ce qu'elle ferait mieux que tout le monde, d'innover dans toute une série de domaines scientifiques qu'elle a, sur lesquels elle s'est un peu freinée. Et pour juste boucler là-dessus, on a un peu, je pense, le complexe qu'à l'Allemagne pour les mêmes raisons. Nous ne sommes pas très à l'aise avec le concept de puissance. C'est à la fois très beau et très éthique, mais c'est le problème, c'est que la politique, ça fonctionne à partir de la puissance.
Alors que les Américains, eux, n'ont pas ce genre de problème. Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous, Eric. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, je voulais poser la question à vos invités. En quoi l'arrivée de Donald Trump dérange la mondialisation supposément heureuse ? Parce que Elon Musk, Jeff Bezos, bon, on l'a vu, ils suivent le truc, mais je pense pas que Bernard Arnault, je pense pas que les milliardaires, je pense pas que les Saoudiens, tous ceux qui à l'heure actuelle font énormément de pognon avec le système mondialisé tel qu'il est, soient inquiets de l'arrivée de Donald Trump, quoi. Je veux dire, je vois pas. Je sais pas, c'est... On a l'impression qu'on découvre quelque chose, mais c'est depuis des lustres que ça se passe comme ça.
Éric, merci beaucoup. François Gémen, je vais vous poser la question dans l'autre sens. Est-ce que nous sommes les seuls à avoir des inquiétudes et même des peurs et même être tétanisés, à votre avis, par Donald Trump aux États-Unis ?
Alors clairement, les sondages montrent que nous sommes largement les plus inquiets en Europe et que les autres populations, les autres pays sont beaucoup moins inquiets que nous. Mais il faut dire que c'est aussi chez nous que Elon Musk ou Donald Trump cherchent à interférer avec le résultat des élections. C'est chez nous que Donald Trump cherche à acheter le Groenland. Les autres pays ne sont pas aussi menacés que nous le sommes. Et d'une certaine manière, je pense que nous avons des raisons légitimes, bien entendu, d'être inquiets. Et je voudrais revenir un instant sur la question du projet européen. Je pense que le projet au départ de l'Europe, il était assez fantastique. C'était celui de construire un continent de paix et de prospérité. Et c'est au fond le projet des Trente Glorieuses qui aujourd'hui est largement achevé. Et c'est comme si nous restions prisonniers de cette idée, de ce projet des Trente Glorieuses, sans parvenir à en définir un autre. Et donc, de ce fait, l'Union européenne est perçue par les citoyens comme une grande machine bureaucratique parce qu'elle cherche à édicter des normes. Mais je crois important de rappeler que la norme, c'est la condition inhérente de la démocratie et que c'est simplement le fait que nous nous donnons des règlements collectifs. Nous décidons ensemble des règles que nous voulons nous appliquer. Alors, on peut discuter tant qu'on veut de simplification administrative, de bureaucratie, etc. Je veux bien, mais il faut rappeler que la norme est quand même la condition inhérente et nécessaire de la démocratie. Et ce n'est pas pour rien que tous les apprentis dictateurs dans le monde veulent s'affranchir de la norme au nom de la liberté.
Il nous reste à peine une minute, Anne Rosenchère. Je voudrais vous soumettre cette remarque de Jean-Baptiste sur WhatsApp qui dit « Mais nous ne manquons pas de projet, ce n'est pas la question. Dans ce brusque passage de l'état de droit à la loi du plus fort, nous manquons surtout de force, mesures de rétention, déstabilisation, voire, rajoute notre auditeur, options militaires et létales. » En tout cas, ça veut dire qu'on... C'est un peu la question qu'on posait tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas crier aussi fort que lui, en fait, parce qu'on n'a pas les moyens de crier aussi fort que lui.
Ah oui, ben déjà on n'est pas assez unis pour que nos voix ensemble crient aussi fort que lui, et puis je pense qu'on est nous-mêmes déstabilisés par nos propres incertitudes politiques et par, encore une fois, les questions que ça nous adresse à tous.
Voilà. Et nous sommes seulement le combien ? 27 janvier. Oui. Trump est arrivé le 20 janvier. Ben dites-moi, merci à tous les trois. Merci vraiment de votre participation. Voici la question des petits bateaux ce soir et c'est celle de Malik.
Je voudrais savoir si l'espace a des frontières.
Merci Malik, la réponse dans 3 minutes.